Bonjour à tous.
C'est certainement une très grande joie et un très grand privilège pour moi d'être ici. Je me réjouis vraiment de ce que nous vivons ensemble, de la possibilité d'adorer le Seigneur ensemble. Je me réjouis vraiment de votre accueil et de votre hospitalité. Vraiment merci à tous. Et le Seigneur n'oublie pas tout ce que vous faites pour les frères et sœurs, tout ce que vous faites pour la Bulgarie. Hein, votre soutien fidèle aussi vous appelle, les personnes qui nous appellent, qui s'intéressent, qui soutiennent dans la prière, vraiment, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je veux croire que le Seigneur va nous bénir. Je voudrais vous lire un texte très très attachant dans la parole de Dieu avec un enseignement qui je pense va nous encourager à le servir. Une très belle histoire dans le livre des Actes au chapitre 9. Alors le chapitre 9 du livre des Actes commence par cet événement extraordinaire, la conversion de Saul de Tarse. Mais plus tard, alors que l'évangile progresse, c'est de nouveau de Pierre qu'il est question. Et je vous propose la lecture à partir du verset 36 du chapitre 9 des Actes. Il est écrit qu'il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, en fait gazelle, si on traduisait. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Je vous propose quelques autres textes de la parole de Dieu qui sont un soutien et un complément par rapport à ce que nous venons de lire. D'abord, dans l'Épître aux Galates, on peut lire. Quelques versets où Paul dit très courtement au verset 9 du chapitre 6 de l'Épître aux Galates. Paul dit « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Romains chapitre 12, l'Épître aux Romains chapitre 12. Verset 9. Paul dit « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. » Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. À partir du verset 19, on peut lire. Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 19. « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et enfin, en dernier, un seul verset dans l'Apocalypse. En fait, on peut lire deux versets. L'Apocalypse, chapitre 14, les versets 12 et 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Seigneur, on voudrait te demander de bénir ta parole, on voudrait te demander d'ouvrir nos cœurs, c'est vrai, de nous instruire. On voudrait te demander de nous voir vraiment, de nous faire voir les merveilles de ta loi, les merveilles de tes ordonnances, les merveilles aussi de ces œuvres préparées d'avance pour nous afin que nous les accomplissions. À l'image, ô Dieu, de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui accomplissait ta volonté. Ta loi était tout au fond de son cœur. Il n'avait qu'un désir, c'est d'accomplir tes œuvres et d'être parfait dans cet accomplissement, d'être accompli dans cette obéissance. Nous voulons, Seigneur, être touchés par ton esprit afin que tu nous montres ce qui n'est pas propre à notre nature, alors que peut-être nous sommes menacés de lassitude, menacés de découragement, alors que peut-être nous réalisons que oui, nous n'avons pas la force de continuer à accomplir ce que tu attends de nous. Que tu puisses bénir ton Église et qu'elle puisse réellement être utilisée par toi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Cette histoire d'acte 9 pourrait être en fait un simple incident, juste quelques versets. Une veuve du nom de Dorcas, qui est probablement encore assez jeune, est tombée malade et décédée. Un moment triste, un moment bouleversant. Et pourtant, ce moment triste et bouleversant a abouti à un événement extraordinaire, c'est sa résurrection. Il n'y a pas beaucoup de récits de résurrection, le saviez-vous? Savez-vous combien il y a de récits de résurrection dans la Bible? Je parle de personnes qui sont décédées dans le Seigneur, qui sont mortes dans le Seigneur et qui ont été ressuscitées. Il y en a 7 en tout. 2 dans l'Ancien Testament, dans le ministère d'Élie, dans le ministère d'Élisée. À chaque fois, il s'agit soit d'une femme, soit d'une veuve, mais de leur fils unique. C'est une histoire très intéressante. 3 fois dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fils, de nouveau le fils unique de la veuve de Naïn, la fille de Jaïrus, qui avait 12 ans. Et puis, bien sûr, la résurrection de Lazare. Et puis, cet événement dans le ministère de l'apôtre Pierre et aussi ce jeune homme qui, lors d'une prédication de l'apôtre Paul, qui s'était prolongé tard dans la nuit, était tombé du 3e étage et était mort et que le Seigneur a ressuscité. Et bien sûr, c'est ce miracle extraordinaire de la résurrection qui a été accordé par Dieu, finalement, à un nombre très limité de fois. Ces miracles, comme tous les miracles que Dieu accorde, ce sont des signes, ils ont une signification, ils apportent un message. Quel message? Bien sûr, c'est d'abord le message de la toute-puissance de Dieu par Jésus-Christ et de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort. Il y a la résurrection, il y a la réalité de la résurrection, il y a la victoire sur la mort. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ et les prémices, ce sont les premiers fruits de notre résurrection. Et c'est la vie, c'est le but de notre vie, c'est l'espérance. Nous, participons et nous participerons si nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ dans la repentance et la foi, nous vivrons la résurrection d'entre les morts. Et c'est notre espérance, c'est notre raison de vie. J'entendais quelqu'un qui disait aujourd'hui, qui disait ce matin, c'est difficile de vivre. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais oui, c'est difficile de vivre, mais notre patrie est céleste. La vie, la véritable vie, c'est celle qui nous attend, c'est celle à laquelle nous aspirons. Nous verrons le visage, nous verrons la face de notre Dieu, nous verrons l'agneau sur son trône, nous verrons le Seigneur Jésus-Christ et nous serons dans sa présence, nous l'adorerons pour l'éternité. Mais il y a aussi dans ce texte, je pense, un autre enseignement. Il y a dans le choix de Dieu par rapport à ce miracle de ces quelques résurrections qui nous sont présentées, les quelques rares fois où Dieu a voulu dans son amour, dans sa compassion, ramener à la vie une personne qui avait quitté ce monde. C'est intéressant parce que plusieurs de ces récits de résurrection, ce sont des personnes très jeunes, ce sont des enfants. Hein, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, et puis bien sûr la résurrection de Lazare, et là cette, je pense, jeune femme qui s'appelait Dorcas, gazelle. Alors bien sûr, gazelle, c'est très romantique, c'était probablement une très belle personne, une personne très attachante, une personne pleine d'amour. Mais ce récit, quand on l'observe d'un peu plus près, est très particulier. Ce qui est particulier, avant de parler de qui était Dorcas, quelle était sa vie, qu'est-ce qu'elle faisait pour Dieu, quel était son témoignage, c'est pas d'abord le témoignage de Dorcas, c'est le témoignage de l'Église qui se trouvait là, qui peut-être se trouvait dans sa maison. Et c'est un témoignage très particulier. On pourrait dire que c'est même étonnant, c'est étrange de voir qu'on découvre qui est Dorcas au travers de ceux qui vivaient avec elle. Je pense que c'est vraiment ça la définition du témoignage. Qu'est-ce que c'est un témoignage ? Un témoignage, c'est... vraiment, la mesure d'un témoignage, c'est voilà, si une personne disparaît, qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle ? Voilà, si on est amené à disparaître, à nous en aller, hein, bon, c'est très temporaire, le chrétien n'a pas peur de la mort. La mort, c'est vrai, c'est franchir cette rivière sombre, mais c'est se dépouiller de ce corps qui est faible, qui est marqué par le péché, par la maladie, par la souffrance, par la mort, de se dépouiller et de revêtir les vêtements blancs de la résurrection et de voir la face du Seigneur. Mais quel est le témoignage que nous laissons ? Qu'est-ce qui restera de nous ? Et ce témoignage, il est imprimé dans le cœur de ceux qui ont vécu avec nous, dans le cœur de ceux qui nous connaissent, dans le cœur de ceux qui nous aiment, dans le cœur de ceux qui ont servi à nos côtés. Et le témoignage que Dorcas avait laissé était extraordinaire. Et il était extraordinaire à tel point que les chrétiens ont réagi de façon étonnante. Même si je voulais un petit peu provoquer, je dirais presque de façon inhabituelle, voire anormale. Les chrétiens n'ont pas réagi de façon ordinaire, de façon commune, au décès de Dorcas. Ils ont pris son corps, ils ont lavé son corps, ils l'ont posé dans la chambre haute. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Ils ne l'ont pas enterré. On est en Israël. En Israël, on enterre le jour même. Et l'exception, bien sûr, ça pourrait être notre Seigneur Jésus-Christ qui a été embaumé, qui devait être embaumé 36 heures plus tard, le dimanche matin, mais il était ressuscité lorsque les femmes sont allées avec les aromates. Mais même le corps de Jésus-Christ, il a été déposé dans le sépulcre le jour même. Oui, c'est un pays chaud, on ne peut pas attendre même 24 heures, on ne peut pas attendre une journée de plus. Quand une personne décède, on l'enterre le jour même. Mais ils ne l'ont pas enterré, ils ont envoyé chercher Pierre, ils lui ont demandé « viens en toute hâte ». et bien sûr, prie pour sa résurrection. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ses frères et sœurs lors du décès de Dorcas? Bon, il y a certainement, par le Saint-Esprit, il y a certainement une œuvre prophétique, c'est-à-dire que Dieu, dans sa grâce, de par son esprit, a probablement inspiré, parce que toute la gloire revient à Dieu, toute la gloire revient à Jésus-Christ, notre Seigneur a inspiré, il a guidé les frères et sœurs, il les a guidés de ne pas enterrer Dorcas, il les a guidés d'appeler Pierre, parce que le dessein de la résurrection de Dorcas, c'est le dessein de Dieu, c'était une œuvre préparée d'avance par Dieu. Donc il y a quelque chose de prophétique, partiellement et dans une certaine mesure, sans savoir ce qui va arriver, les frères ont été guidés de ne pas enterrer Dorcas, mais d'appeler Pierre. Il y a des choses dans lesquelles on est guidé, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, mais le Seigneur sait. Et ça, bien sûr, c'est l'aspect merveilleux, c'est l'aspect miraculeux, c'est l'aspect divin de tout cela. L'assemblée du Seigneur est guidée. Et ils sont guidés à ne pas enterrer Dorcas parce qu'il y a une œuvre merveilleuse qui va s'accomplir, il va y avoir sa résurrection. Mais bon, ça c'est l'aspect, on peut dire, c'est l'aspect spirituel, ça c'est l'aspect divin, ça c'est l'aspect prophétique, mais il y a un aspect humain. Il y a un aspect humain, et l'aspect humain, et bien sûr c'est aussi un aspect spirituel, mais c'est l'attachement de cette église, l'attachement de cette communauté à cette femme. On pourrait résumer la situation que les chrétiens, ils n'ont pas pu accepter la perte de Dorcas. Ils n'ont pas pu se résigner à la perdre. Ils étaient tellement attachés à elle, ils étaient tellement attachés à sa vie, à son caractère et à ses œuvres peut-être que si on s'exprime de façon vraiment, mais là vraiment très très humaine, ils ne pouvaient pas supporter l'idée qu'elle est perdue. Qu'elle est perdue pour cette vie, qu'elle est perdue qu'elle a perdu sa place parmi eux temporairement. Bien sûr, elle la retrouve pour l'éternité. Mais ils ne pouvaient pas accepter. Ils ne pouvaient pas accepter. Là, bien sûr, il ne s'agit pas de cette révolte qui est insensée. La révolte du méchant devant la mort, la révolte de l'inconverti devant la mort, la révolte de celui qui ne connaît pas Dieu, peut-être aussi même si on connaît Dieu, mais qu'on n'accepte pas la réalité des choses. La mort est le dernier ennemi, le plus puissant ennemi, et un jour, oui, c'est vrai, on perd ceux qui nous sont proches, on perd ceux qu'on aime, on perd les siens. Et c'est sûr, il y a le danger de la révolte. Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai perdu mes parents? Pourquoi est-ce que j'ai perdu mes proches? Là, il y a quelque chose de dangereux, là, il y a quelque chose de terrible. C'est que la révolte, elle peut entraîner le rejet de Dieu. Mais bon, là, on ne parle pas du tout de ça. On ne parle pas du tout de cette révolte-là. On parle d'un attachement spirituel et en même temps un attachement très très concret au travers de la vie ensemble, au travers de la vie en communauté dans l'église primitive, au travers de toute cette vie ensemble, de toutes ces œuvres. L'église est le corps de Christ et Dorcas était une partie de ce corps, elle était un membre de ce corps, mais un membre qui avait une telle place que lorsqu'elle a quitté ce monde, lorsqu'elle est partie, lorsqu'elle a été prise par le Seigneur, le vide, la blessure qui avait été infligée au corps était insupportable. Les frères ne pouvaient pas se résigner à sa mort parce que le témoignage, la vie et les œuvres de Dorcas, ils étaient, on peut dire, si on s'exprime de façon humaine, peut-être de façon limitée, ils étaient irremplaçables. Et donc ils ont appelé Pierre. Et Pierre est arrivé et ils ont décrit à Pierre qui était Dorcas. Et là, c'est décrit de façon très très sobre, hein, comme dans la plupart des récits bibliques d'ailleurs, de façon très très sobre, de façon très très simple. Toutes les veuves entourèrent Pierre en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Un petit peu plus haut, il est dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et alors là, voilà, on peut essayer d'imaginer Pierre qui arrive là,
Et voilà le corps de Dorcas, et voilà les veuves et les frères et les sœurs qui disent qui elle était et qui pleurent et qui racontent sa vie et qui disent c'était une vie extraordinaire au service du Seigneur et au service de l'Église. Alors, bien sûr, la question qu'on se pose immédiatement, c'est qu'est-ce que cette vie avait d'aussi extraordinaire que ça ? Il y a des gens qui ont une vie extraordinaire pour Dieu. Il y a vraiment des gens qui ont une vie extraordinaire pour Dieu. Mais bon, on pourrait aussi se poser la question, si on essaie d'imaginer, qu'est-ce que c'est dans notre imagination, par exemple, un homme ou une femme qui a une vie extraordinaire pour Dieu ? Là, cette personne, elle a eu une vie extraordinaire pour Dieu, elle a eu un témoignage exceptionnel dans son Église, un attachement unique, et le Seigneur lui a accordé la résurrection de revenir à la vie pour continuer à servir son assemblée. Et en général, quand, de façon humaine, on envisage une vie extraordinaire pour Dieu, on peut penser à vraiment... Quelqu'un qui fait pour Dieu quelque chose de vraiment éclatant, quelqu'un qui fait des exploits, quelqu'un qui, on pourrait dire aussi, parce que c'est aussi beaucoup la pensée d'aujourd'hui, quelqu'un qui devient célèbre en servant Dieu, quelqu'un qui a un ministère rayonnant, qui est extrêmement connu, peut-être on pourrait dire un grand missionnaire, un grand prédicateur, quelqu'un qui a risqué sa vie, qui a sauvé la vie d'autres personnes dans des circonstances dramatiques, quelqu'un qui a énormément souffert, ou quelqu'un qui a subi le martyre ou la persécution. Bon, c'est vrai, ce sont les héros de la foi. Si vous lisez dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11, et vous voyez les apôtres et les prophètes qui ont subi la persécution, qui se sont cachés dans les déserts et dans les cavernes, et qui ont subi la souffrance et l'épée et souvent la mort, des choses extraordinaires. Et on s'attendrait à, là aussi, des choses extraordinaires dans la vie de Dorcas. Mais en fait, si on cherche ça, on est déçu. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont montré à Pierre, les frères et sœurs de l'église à Joppé ? Ils ont montré du linge, ils ont montré des vêtements. Qu'est-ce que faisait ? Elle faisait des vêtements. Bien sûr, on va dire, oui, mais oui, c'est utile, c'est nécessaire de faire des vêtements, de faire des tuniques, de tricoter, de faire du crochet, de tisser. Mais, bon, là, peut-être je pourrais mettre juste une toute petite goutte d'humour dans ma prédication. Bon, pour nous, les hommes, bon, c'est un peu du travail de bonne femme, quoi. C'est les maîtresses de maison, quoi. Bon, elles font la cuisine... Elle couse les chaussettes quand elle se déchire, change les couches des enfants. C'est le travail ménager, c'est le travail de la maison. Elles sont là à la maison, nous on sert le Seigneur, on va accomplir des grandes œuvres, on part loin, on fait plein de choses. Mais qu'est-ce qui est tellement frappant dans cette histoire ? C'est que voilà quelqu'un qui servait Dieu de la façon qui lui avait été accordé par le Seigneur. Elle faisait des tuniques et elle faisait des vêtements du matin au soir, patiemment, lentement. C'était pas quelqu'un qui faisait quelque chose qui rend célèbre. C'était pas quelqu'un qui avait choisi de faire quelque chose qui une grande carrière, parce qu'on peut même faire dans l'œuvre de Dieu une grande carrière, quelque chose qui rend connu, quelque chose qui est très visible, quelque chose qui attire l'attention, quelque chose qui fait du bruit, quelque chose dont on parle. Non, elle était là dans son foyer. Elle s'occupait de sa famille, elle s'occupait de ses proches, et elle faisait ce qu'elle pouvait faire avec son propre don. Elle faisait des vêtements, elle faisait des tuniques. Mais ce qui est tellement important, c'est qu'elle le faisait fidèlement. Et ça nous amène à la question la plus importante. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre service pour Dieu ? Qu'est-ce qui est de la valeur, la véritable valeur des choses auprès de Dieu ? C'est pas mesurer ce qu'on fait pour Dieu selon des critères humains. Quelque chose qui paraît très grand ou très impressionnant ou très éclatant. Quelque chose qui est très inhabituel. Mais voilà, une fidélité, un amour, une consécration à Dieu. Une femme qui faisait des vêtements. Mais elle faisait des vêtements avec un tel amour, avec une telle patience, avec une telle fidélité, avec une telle consécration, que en faisant des vêtements, elle s'offrait elle-même à Dieu et aux frères, elle offrait son propre cœur à Dieu et aux frères. Et une femme qui faisait des vêtements et qui habillait les frères et les sœurs de l'Église, elle a reçu un témoignage tel que le Seigneur lui a accordé la résurrection d'entre les morts, qu'elle soit ramenée. Et son histoire, l'histoire de Dorcas, l'histoire de Gazelle, qui arrive jusqu'à nous, dans le monde entier, par son amour, par sa patience, par sa douceur, par sa fidélité. Et ça nous rappelle une autre histoire, l'histoire de cette femme qui était en fait probablement Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui avait répandu sur la tête, sur les cheveux et sur le corps de Jésus un parfum de grand prix, et les disciples qui s'étaient indignés, c'était deux jours avant la crucifixion. Pourquoi ce gaspillage? Et puis alors ce témoignage extraordinaire que Jésus avait donné à ce que cette femme avait fait, en disant que partout où la bonne nouvelle de l'Évangile sera annoncée, il sera dit en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et ce qui est très très impressionnant, c'est que en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, c'est la même expression que Jésus plus tard dit en parlant de la coupe et du pain, faites ceci en mémoire de moi. Et partout où la bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier, c'est la plus haute appréciation que Jésus ait jamais donnée à une œuvre accomplie en sa faveur pendant son ministère sur terre. Jésus n'a pas dit ça de Pierre qui a marché sur les eaux, Jésus n'a pas dit ça de Jean, Jésus n'a pas dit ça, il n'a dit ça d'aucun des disciples, il a dit ça de cette femme. Partout où la bonne nouvelle sera annoncée, il sera dit en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, parce que il y a quelque chose qui est révélé, il y a cette humilité, il y a cet esprit de service, il y a cet amour, il y a ce don de soi, il y a le vase qui est brisé et ce qui est répandu qui est d'un grand prix, c'est répandu et voilà, c'est perdu. Il y a cette femme qui avait passé toute sa vie Dorcas à faire des vêtements. Elle avait passé toute sa vie à prendre soin de ceux qui avaient besoin. Elle voyait un besoin et elle disait, voilà, je vais faire quelque chose, je vais faire ce que je peux. Elle perdait sa vie. Et c'est cet appel que Paul et que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappellent, ces bonnes œuvres qui suivent les saints, et ne vous lassez pas de faire le bien. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne vous lassez pas de faire le bien. Excitez-vous à l'amour et aux bonnes œuvres. Parce que quel est le danger? Le danger, c'est de se décourager. Le danger, c'est de servir Dieu. Le danger, c'est de servir le Seigneur. Mais il y a un moment où il y a une lassitude. Il y a un découragement à servir Dieu, à servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on s'engage à servir Dieu, on ne s'engage pas pour un an, ou on ne s'engage pas pour deux ans, on ne s'engage pas pour cinq ans, parce qu'on s'engage jusqu'au bout, on s'engage pour la vie. Vous savez, il y a une évolution frappante et inquiétante dans le travail missionnaire, par exemple. Autrefois, lorsque les missionnaires partaient, ils partaient pour la vie. Ils partaient pour toujours, ils partaient là où le Seigneur les envoyait, et il n'était pas question de retour. Bon, peut-être qu'ils devaient revenir un jour, mais il n'était pas question de retour. Aujourd'hui, la mode, c'est la mode du court terme. On part pour un an, on part pour deux ans, on part pour quatre ans, on part pour... Et puis on sait que de toute façon, on part pour... On donne, mais Seigneur, je donne, mais je veux mesurer ce que je donne, je veux savoir ce que je donne. C'est-à-dire, je te donne un certain temps, je pose certaines conditions, quoi. Et puis c'est très à la mode aussi dans la façon dont on conseille les évangéliques aujourd'hui. Il faut toujours que tu poses des limites. Alors les gens ils ont des besoins, mais il faut que tu penses à tes propres limites. C'est-à-dire tu donnes, mais il faut pas trop donner, il faut pas donner jusqu'au bout, jusqu'à un certain point. Il faut que tu te protèges. Il y a peut-être une certaine sagesse, et puis il y a un grand danger, parce que quand on commence à compter, quand on commence à limiter, donner à moitié, c'est pas vraiment donner. Mais le problème, c'est que
servir les frères et les sœurs, servir les saints en amour et en vérité, c'est perdre sa vie. À chaque fois qu'on fait quelque chose de façon désintéressée, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui est pour la cause de Christ, à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on veut que toute la gloire elle revienne pas à nous, qu'elle revienne uniquement au Seigneur, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui se détache de nous et qui soit pour faire du bien à ceux qu'on aime, pour faire du bien aux frères, du point de vue humain, c'est quelque chose de perdu. Parce que regardez la pensée du monde. La pensée du monde, elle est contraire. La pensée du monde, c'est tu dois faire carrière, tu dois accumuler les diplômes, tu dois accumuler les stages, tu dois accumuler les qualifications, tu dois monter les échelons dans ton système, tu dois monter en grade, tu dois t'élever pour pouvoir avoir un meilleur salaire, pour pouvoir acquérir plus de biens. Et si par malheur ton salaire devait un peu diminuer, ou si par malheur tes conditions devait empirer, c'est terrible, c'est un scandale. Il faut monter, il faut arriver à toujours plus, il faut être plus performant, il faut être plus... Et parfois, moi, j'ai l'impression que ça influence même l'Église, l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui disent il faut arriver à faire toujours plus. Mais c'est comme si tout à coup, c'est plus vraiment la gloire de Dieu. Alors qu'en fait, il est dit que celui qui s'élève sera abaissé et que celui qui s'abaisse sera élevé. En sachant que le Seigneur, il élève celui qui l'abaisse, parfois il élève dans cette vie, mais parfois il élève pas dans cette vie, parfois il élève dans l'éternité. Et que servir Dieu, c'est pas être des gagnants, c'est être des perdants, c'est on perd sa vie. Celui qui est gagnant, c'est Christ, c'est pas nous, c'est Christ qui est gagnant, c'est lui qui gagne. Et il y a un moment, effectivement, il y a un moment, c'est comme si tu as du sable dans la main, il est en train de te passer entre les doigts. Il y a un moment, effectivement, tu te rends compte que tu es en train de perdre ta vie, que quand tu sers le Seigneur, il y a des souffrances. Quand on sert le Seigneur, on prend des coups. Il y a des gens qui ne sont pas gentils, il y a des gens qui sont méchants. Il y a des déceptions. Il y a de l'ingratitude. Il y a du manque de reconnaissance. Il y a la solitude. Il y a des choses qui deviennent plus difficiles à supporter avec les années qui passent. Quand on a 20 ans, on peut supporter à peu près tout et n'importe quoi. Quand on en a 40, 50, ça devient un petit peu plus difficile. Et puis plus tard, ça devient encore plus difficile. Et puis le chemin est long. Et puis il est long. Et puis on n'en voit pas le bout. On ne sait pas combien de temps Dieu nous appelle à servir. On ne sait pas ce qu'il va demander de nous. Et c'est surtout ça. On ne sait pas ce que le Seigneur va demander de nous. On aimerait savoir, hein. On aimerait savoir pour s'asseoir et puis faire les comptes pertes et profits. Seigneur, moi, je veux savoir ce que tu vas demander de moi cette année, l'année prochaine, l'année d'après, pour un petit peu savoir. Bon, je veux bien encore faire ça, mais bon, après, je voudrais bien ma retraite spirituelle. C'est-à-dire, je voudrais bien un petit peu mettre de côté puis plus rien faire. Dire, bon, c'est bon, basta, hein, j'ai fait ça pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, je t'ai servi, mais bon, maintenant ça suffit, maintenant c'est le tour des autres, maintenant j'aimerais bien un petit peu monter en grade, quoi. J'aimerais bien maintenant qu'on vienne un peu me servir, moi. Et le Seigneur me dit, mais non, tu continues à me servir. Combien de temps? Tu sais pas, c'est moi qui sais. Qu'est-ce que tu vas attendre de moi, Seigneur, demain? Demain, je ne te dis pas. Je te dis aujourd'hui ce que tu dois faire. C'est ça ce que le Seigneur nous dit. Et on perd sa vie. On perd sa vie. On perd sa vie parce qu'elle ne nous appartient pas. Et parce qu'elle les a dépassés. Et puis parce que on peut pas à la fois servir le Seigneur et accomplir les rêves qu'on a selon les ambitions de ce monde. Parfois, on se dit, voilà la vie que je pourrais avoir si je ne servais pas le Seigneur. Les avantages que je pourrais avoir, les choses que je pourrais faire, etc. Et les années passées, on le perd. Et il y a ce sentiment, et y a ce sentiment de perte qui, à un certain moment, il peut être insupportable. Il peut y avoir tout à coup la lassitude, il peut y avoir le manque de pardon, il peut y avoir l'amertume dans notre cœur, il peut y avoir la révolte. Et voilà, on a servi Dieu un certain temps, il y a eu le premier amour, il y a eu tout ça, et puis à un moment, petit à petit, il y a l'esprit du monde qui nous envahit, et puis on oublie tout ça. Et pourtant, Perdre sa vie, c'est la retrouver pour la vie éternelle, mais c'est un acte de foi, c'est quelque chose qui est tellement difficile. Perdre sa vie ici, c'est la retrouver pour la vie éternelle. Et moi, je pense que l'exemple de Dorcas est vraiment, c'est vraiment un puissant témoignage pour nous. Parce que voilà, elle avait quitté cette terre, le Seigneur l'avait reprise, mais ses bonnes œuvres, ses œuvres la suivaient. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Dieu n'est pas injuste pour oublier, dit la parole. La persévérance que vous avez eue, la foi que vous avez eue, les soins que vous avez accordés aux saints. Ce qui semble perdu, ce qui est vu humaine est perdu. C'est pas perdu pour le Seigneur. Rien n'est jamais perdu pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse les frères et sœurs qui souffrent. On parle d'Haïti, c'est certainement terrible là-bas. J'ai pas notion de ce que c'est là-bas. Vous savez, une souffrance qu'on vit pas, on peut pas avoir notion de ce qu'elle est. On peut pas vraiment la comprendre. Mais que le Seigneur bénisse ceux qui sont au loin, que le Seigneur bénisse ceux d'entre vous qui chacun, là où il est, dans sa famille, dans son foyer, dans la situation qu'il vit, que le Seigneur bénisse l'Église ici à Toulouse, que le Seigneur nous bénisse pour que nous puissions fidèlement le servir, sachant qu'effectivement on perd sa vie, mais elle n'est pas perdue parce que le Seigneur reçoit toute la gloire. Et vous reposerez de vos œuvres vous suivent, que le Seigneur vous bénisse.